la grande table, le rendez-vous du médiateur.
Nous sommes jeudi et il est là, Bruno Donnaz, bonjour.
Bonjour Olivia Chazer, bonjour à tous.
Quand on parle fausse information, on pense souvent à la politique, mais la politique n'est pas le seul domaine qui peut être concerné par ces fameuses fake news, la science également. France Culture et France Info se sont associés pour lancer un programme de certification des savoirs et des connaissances. Nicolas Martin, le producteur de la méthode scientifique tous les jours sur France Culture, en est le maître d'œuvre.
Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors, combien d'auditeurs, après votre émission ou un sujet scientifique diffusé dans un journal, m'écrivent pour contester ce qui a été dit et ils m'envoient des arguments puisés sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, comment allez-vous vous y prendre pour certifier les informations ?
Alors, on va s'y prendre de plusieurs manières. On va s'y prendre à travers différents formats. Un format radiophonique, puisque c'est ce que nous faisons ici, de la radio. Un format qui va durer une dizaine de minutes, qui sera podcastable dans un premier temps et qui sera diffusé par la suite sur la grille d'été de France Culture, qui sera diffusé également sous d'autres formats sur l'antenne de France Info. Et puis aussi via les réseaux sociaux, puisque c'est sur ces réseaux sociaux, hein, on a eu des chiffres récemment, que circulent le plus ces fausses informations. On sait une étude récente montre que 70% des fake news, plus 70% de chances de plus d'être transmis, diffusés sur les réseaux sociaux que les nouvelles ou que les informations certifiées. Donc on va mettre en place un format vidéo de 3-4 minutes qui permettra aussi de passer par ces réseaux-là pour toucher les gens qui consomment de l'information et qui peuvent parfois se laisser tromper par les informations qu'ils partagent.
Alors là, vous avez parlé de la forme, mais sur le fond, comment allez-vous certifier ces informations ?
Alors vous savez, la question de la vérité en science est une vaste question. La vérité, c'est une erreur rectifiée, disait Bachelard. Il n'y a pas évidemment une vérité scientifique. La science permet d'attester un certain nombre de choses. Il y a des études qui sont faites. Donc ensuite, on va simplement se baser sur une expertise scientifique sur un certain nombre de questions. Je crois que ce qui est important, c'est de distinguer un certain nombre de régimes différents de fausses informations. Parce qu'on parle de fake news, mais une fake news, c'est pas tout à fait la même chose qu'une idée reçue. C'est pas tout à fait la même chose que la théorie du complot. Il y a des fake news qui sont créées pour déstabiliser des adversaires politiques. Bref, on va en tout cas essayer d'adresser toutes ces informations qui circulent, qui ne sont pas vérifiées, qui viennent de sites douteux. Et on va dire aujourd'hui quel est l'état de la connaissance scientifique.
Est-ce que vous avez des exemples ?
Exactement. Bah, par exemple, on peut prendre des théories du complot qui paraissent des théories du complot énormes. Par exemple, le créationnisme. Aujourd'hui, le créationnisme, c'est dire il n'y a pas eu de préhistoire, il n'y a pas eu de théorie de l'évolution. Finalement, l'homme et la femme existent depuis 6000 ans, c'est Adam et Ève, c'est ce que disent les textes sacrés. Bon, nous, on va pas montrer des preuves scientifiques que la Bible est fausse, c'est pas notre intérêt, mais c'est de se dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que la théorie de l'évolution est une théorie ? Pourquoi on appelle ça théorie de l'évolution ?
Ah oui ?
C'est ce que disent les créationnistes. Eh bien parce que, Darwin, au moment où il la postule, pense que c'est une théorie, et puis au fur et à mesure, avec l'avancée des sciences, cette théorie est de plus en plus confirmée, mais ça reste une théorie parce que scientifiquement, épistémologiquement, c'est la façon dont Darwin l'a formulée, même si aujourd'hui, c'est l'une des théories les plus sûres que la science puisse produire.
Alors tiens, prenons ce message reçu cette semaine et qui vous concerne également, Olivia. Lundi, dans la grande table, vous avez évoqué les neurosciences et Jonathan, un psychologue, a été très agacé qu'elle soit présentée, écrit-il, uniquement comme le fruit d'une idéologie capitaliste alors qu'il s'agit d'une science popérienne. Alors si je ne me trompe pas, la vision popérienne préconise le doute scientifique, la recherche des erreurs. Comment trancher à propos des neurosciences ?
Avec des scientifiques toujours, surtout la vision popérienne, Popper, c'est la réfutabilité, hein, c'est dire que la science est ce qui est réfutable, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la science c'est vrai jusqu'à preuve du contraire, et c'est ce qui fait la science, c'est ce qui distingue la science de la métaphysique, c'est ce qui est indiscutable ou irréfutable. Type la présence de Dieu, par exemple. Eh bien, simplement, on va se demander simplement quel est aujourd'hui le consensus, quels sont les consensus scientifiques autour des neurosciences. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est intéressant de se poser la question de l'apprentissage, maintenant qu'on sait comment on apprend, maintenant comment on sait la façon dont le cerveau apprend, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, en tout cas, ce que dit la science à propos de ces neurosciences sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, comment elle peut les orienter, les cadrer, les améliorer, pourquoi pas.
Alors, quand on lit la virulence des messages, notamment que je reçois d'auditeurs anti-vaccins persuadés des dangers de la vaccination parce qu'ils ont lu de fausses informations sur Internet, je me dis qu'il sera quand même difficile de leur conseiller de plutôt lire des informations validées et vérifiées.
Mais je, alors ensuite, je pense pas qu'il soit difficile de fournir le consensus scientifique à un moment donné, en sachant que par ailleurs, on va évidemment s'adresser aussi, parce que c'est souvent des reproches qui sont faits, hein, le problème de qu'il peut y avoir de conflits d'intérêts entre certains chercheurs qui travaillent pour laboratoires privés. Nous, on est garanti 100% sans conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on va interroger des chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts avec le privé. Et puis, on va surtout essayer de démonter calmement, scientifiquement, tous ces éléments qui aujourd'hui sont répandus et tendent à faire douter de la vérité scientifique. Encore une fois, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Il y a rarement un blanc, un noir, mais en général un panel de réponses que la science apporte pour expliquer le réel, et c'est ce qu'on va essayer de faire.
Bon, ça promet d'être passionnant. Merci Nicolas Martin, producteur de La Méthode Scientifique, tous les jours à 17h.
À 16h. 16h,
16h. À 16h, pardon. 16h, 17h. Ça se termine à 17h.
Ça se termine à 17h. Et aujourd'hui, on parle de l'histoire du Sahara.
Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas Martin. Merci à vous, Bruno Denas. Les auditeurs peuvent continuer à réagir et à vous écrire sur votre site mediateur.radiofrance.fr. On se retrouve dans 2 semaines. Un grand merci d'ici là à toute l'équipe de la Grande Table. Quand une Grande Table se referme, vous savez, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez réécouter l'émission, vous abonner au podcast et nous écrire. Merci à Claire Maillot et à Clémence Marie, à Henri Leblanc et à Jean-Christophe Brianchon pour la programmation préparation de cette émission, avec l'aide précieuse d'Émile Boutelier et de Liana Falken à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Antoine Pitiloni. Très bel après-midi à tous.